BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire.
Mais vous avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, il est 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business, 18h-20h avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Alors, ça a été la grande attraction de la journée, évidemment, l'inauguration dans le Pas-de-Calais de la première Gigafactory française, la première usine de conception de batteries électriques. Il y avait beaucoup de monde sur place. Ça, c'est de la réindustrialisation, comme dirait Bruno Le Maire. Oui, mais est-ce qu'on touche pas du doigt quand même les limites de l'exercice de cette réindustrialisation? On va évidemment beaucoup poser la question ce soir sur BFM Business.
Et dans l'actualité, ce soir également, un nouveau plan pour lutter contre la fraude sociale qui est estimé entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Alors, il a été dévoilé aujourd'hui, ce plan, par le gouvernement. Se donne-t-on véritablement une chance de récupérer une partie du manque à gagner ou pas? Eh bien, on posera la question dans une dizaine de minutes au magistrat qui est spécialiste du sujet, Charles Pratt.
Et puis, alors, pendant ce temps, au MEDEF, la campagne continue et figurez-vous que les deux finalistes passaient un grand oral aujourd'hui à Paris devant leur père. Caroline Morisseau y était. Elle va nous raconter comment ça s'est passé et si l'un ou l'autre a pris un petit ascendant finalement. On verra ça avec Caroline dans quelques instants. Voilà le programme non exhaustif. Encore beaucoup de choses. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
C'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Donc, elle se situe très exactement à Billy-Berclau, dans le Pas-de-Calais, la première usine française de conception de batteries électriques, inaugurée aujourd'hui par trois ministres, s'il vous plaît, et trois patrons, celui de Total, celui de Stellantis et celui de Mercedes, qui sont tous partie prenante du projet. Justine Vassogne était sur place pour BFM Business.
Oui, en effet, c'était une inauguration en grande pompe ici à Billy-Berclau avec cette image assez rare de trois grands patrons de l'industrie européenne réunis. Le patron de Mercedes, celui de Total, Patrick Pouyanné, et celui de Stellantis, Carlos Tavares. Les trois hommes ont visité la Gigafactory en compagnie de Bruno Le Maire. Carlos Tavares lui a d'ailleurs lancé « Elle est concrète, cette usine, tu peux la toucher si tu veux » parce que Billy-Berclau, c'est la première Gigafactory sur le sol français. C'est un site impressionnant de 34 hectares qui comptera au total 180 000 mètres carrés d'atelier. Alors on n'a pas vu de batterie aujourd'hui, hein. La production en grande série ne débutera qu'à la fin de l'année. On est encore dans une phase d'apprentissage, nous a dit Carlos Tavares. On va apprendre à faire du volume, on va se tromper, on va tomber et puis on va régler les problèmes. L'important maintenant, c'est d'être compétitif, a lancé de son côté Patrick Pouyanné, alors que la France et l'Europe, on le sait, ont plusieurs trains de retard sur l'Asie et sur la Chine en termes de véhicules électriques. Cette usine n'est qu'un début, a de son côté souligné Bruno Le Maire, qui a appelé à investir plus encore sur les matériaux rares, sur le raffinage. L'Europe, selon le ministre de l'économie, doit maintenant montrer ses muscles industriels.
Justine Vassogne, donc, à Billy-Berclau pour BFM Business. Est-ce qu'on va dire que c'est un grand jour pour l'industrie française, comme le disait Bruno Le Maire, finalement?
Absolument, ne soyons pas timides. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces batteries, elles vont permettre à nos voitures d'avoir deux fois plus d'autonomie elles vont utiliser deux fois moins de métaux rares en étant un peu moins chères. Et on sait que beaucoup d'utilisateurs sont réfractaires à cause de l'autonomie et du prix. Et bien, ces batteries, elles répondre à ces deux problématiques.
Voilà donc pour cette grande journée. Alors, petite fausse note quand même pour le gouvernement. Elle est venue de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui a expliqué qu'il aurait encore besoin de 2 gigafactories, mais qu'il se voyait bien aller les ouvrir, oui, du côté des États-Unis. Écoutez, Carlos Tavares.
Nous réfléchissons évidemment à de nouvelles usines aux États-Unis. Vous savez que nous en avons déjà 2. Une au Canada qui fait l'objet de quelques discussions avec le gouvernement canadien, une autre aux États-Unis, et nous savons que nous allons avoir besoin d'une troisième voire d'une quatrième. Donc il y aura des annonces sur une troisième et une quatrième usine aux États-Unis qui vont venir. Évidemment que le IRA américain crée des conditions très favorables pour ces investissements.
Voilà, Carlos Tavares, donc aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, et cette Gigafactory inaugurée aujourd'hui. On en reparlera demain matin sur BFM Business, puisque c'est Yann Vincent, le directeur général d'Adossé, la co-entreprise Total Stellantis Mercedes. C'est Yann Vincent qui sera l'invité de Good Morning Business à 8h15 sur BFM Business. La réforme des retraites, la commission des finances de l'Assemblée a tranché, oui. La fameuse proposition de loi du groupe Liotte pour abroger le plan gouvernemental est recevable. Donc en aucun cas inconstitutionnelle, elle est donc censée être examinée par une autre commission demain et puis soumise au vote des députés la semaine prochaine, ça sera le 8 juin, très précisément. 18h05, je vous le disais, pendant ce temps, la campagne pour la présidence du MEDEF continue. Et ce matin, ce sont les deux finalistes, Dominique Carlac et Patrick Martin, qui ont passé un grand oral devant l'Assemblée générale du MEDEF. Bonsoir Caroline
Morisset. Bonsoir. Maurice.
C'était à Paris, vous y étiez. Comment ça s'est passé, Caroline?
Alors, ils ont parlé à tour de rôle et ils ont eu 45 minutes, ces deux candidats, pour présenter leur programme et répondre aux questions des quelques 1100 grands électeurs qui voteront au final, le 6 juillet prochain. Une grande partie de ces électeurs n'étaient pas là physiquement, mais à distance. Après tirage au sort, c'est Dominique Carlac, l'actuel porte-parole du MEDEF, qui s'est exprimé la première. Et elle a tenté de ringardiser un peu Patrick Martin en se posant comme la candidate du changement, de la modernité. À son rival qui a fait de la croissance le maître mot de son programme. Elle a rétorqué, la croissance bien sûr c'est une évidence, elle aussi veut s'y attaquer, mais elle a aussi insisté sur d'autres sujets, notamment l'organisation du temps de travail. Elle considère que le MEDEF ne peut pas faire l'impasse sur ces sujets. Derrière, c'est Patrick Martin qui s'est exprimé. Lui, il a surtout vanté le bilan du MEDEF ces 5 dernières années, puisqu'il était numéro 2 du MEDEF pendant ces 5 dernières années. La baisse des impôts de production, la mise en place des PGE ou encore les aides à l'apprentissage. Le MEDEF de combat, de changement, ça ne veut rien dire, a-t-il dit. L'important, c'est l'efficacité, d'où le fait qu'il vante son bilan sur ces 5 dernières années. Et puis, il a à nouveau insisté sur la croissance. Cela peut paraître évident, a-t-il dit, mais pas du tout. Ce débat ne fait plus l'unanimité aujourd'hui et pourtant, c'est la clé, dit-il, pour ensuite investir dans la lutte contre le réchauffement climatique ou encore pour assurer la pérennité des modèles sociaux.
Bon, trois quarts d'heure chacun, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a un qui a marqué des points là?
Non, alors ce matin, c'est difficile, difficile de dire qui a marqué le plus de points. Ces dernières heures, en revanche, Dominique Carlac a vu un certain nombre de grands patrons se rallier à elle. C'est le cas de Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault. C'est le cas aussi de Christelle Edman, la patronne d'Orange. Alors, pas sûr que ça suffise à inverser la tendance. Depuis le début de sa campagne, Patrick Martin est, lui, soutenu par des poids lourds de très grosses fédérations, lui-même, la Fédération de la Métallurgie notamment. Il a aussi eu le soutien du président de la Fédération du bâtiment. Ce sont des fédérations qui pèsent très lourd, au sein du corps électoral pour l'élection finale le 6 juillet prochain. Donc, c'est toujours lui, pour l'instant, qui passe pour le favori dans cette élection.
On rappelle dans l'intervalle 26 juin, lundi 26 juin, 18h-20h, débat entre les deux finalistes en direct sur BFM Business. C'est un suspense total à l'heure actuelle, Audrey.
Oui, c'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines, on disait sur ce même plateau que les dés étaient jetés et finalement, pas du tout. En effet, le suspense bat son plein. Bon, maintenant, il faut le dire, les positions du MEDEF, elles sont quand même assez mollassonnes, rien que sur le sujet de la réforme des retraites. Les entreprises, elles sont complètement passées à côté. Donc, au-delà des personnes, il faut espérer que les programmes qui sont proposés par les deux candidats en lice vraiment permettent de changer la donne par la suite.
Ça, on en reparlera tout à l'heure dans le grand débat. Comment est-ce que vous jugez cette campagne au sein du MEDEF? On en parlera avec nos débatteurs, bien sûr. Deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, dans le secteur IMO, c'est une date, les notaires. Et l'INSEE nous ont dit ce matin qu'au quatrième trimestre 2022, et pour la première fois depuis 2015, les prix dans l'ancien avaient enregistré une petite baisse, moins 0,2% par rapport au trimestre précédent. Puis c'était attendu depuis la semaine dernière, mais ça y est, Nvidia, le géant mondial des processeurs, vient de passer la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street. Il est désormais le sixième membre d'un club très fermé qui compte déjà, excusez du peu, Amazon, Apple, Alphabet, Aramco et Microsoft. 18h09, on va sur les marchés justement.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Les marchés, Aude-Kersulec, bonsoir. À la Bourse de Paris, à Euronext, à La Défense. Grosse bonsoir. Baisse ce soir pour l'indice parisien, Aude, à Paris.
Oui, nouvelle journée rouge ici à Paris. On perd tout de même 1,3% ce soir. On retombe tout juste sur les 7209 points. C'est d'ailleurs une Europe mitigée. Londres perd 1,3% aussi, moins 0,6% sur l'Eurostock 50. En fait, les investisseurs ne sont toujours pas rassurés sur la question de la dette. Tant que ce ne sera pas validé par le Congrès, eh bien, il y aura toujours ces discussions, ces peurs, ces craintes que ce ne soit pas voté. Wall Street est d'ailleurs bien dispersé à l'heure, au moment où on se parle. Alors le Nasdaq gagne 0,5%, mais c'est forcément dû à Nvidia qui s'envole maintenant de plus de 5% depuis une semaine. Le titre a vraiment fortement monté, donc au point de passer la barre des 1000 milliards de capitalisation. Ça a porté nos quelques valeurs technologiques à Paris, hein, ST Microelectronics ou Dassault Systèmes, qui sont montées de plus de 1%. En revanche, on a quand même une baisse très marquée aujourd'hui des cours du brut, et ça, eh bien, ça a emporté Total Energy à la baisse. Plus mauvaise performance de l'indice parisien, moins 3,4% à 53,82 €. Sur le SBF 120 aussi, une mauvaise performance dans l'immobilier. Nexity, le promoteur, qui a reçu une mauvaise note de la part d'un analyste qui a baissé sa recommandation parce que, eh bien, la hausse de taux pèse dans le secteur de la promotion immobilière, donc moins 7,8% pour Nexity en clôture. Et puis on notera aussi que c'est la période mai-juin, on détache des dividendes. Ça a été le cas du CAC 40 aujourd'hui. 5 sociétés ont détaché leurs dividendes. C'est aussi pour ça qu'on a une baisse assez accrue aujourd'hui, donc moins 1,2%, 7209 points.
Merci beaucoup, Aude de Kersulec, donc à Euronext pour BFM Business. On regarde ce qui se passe du côté de Wall Street. On ira tout à l'heure à 19h, moins 0,36% pour le Dow Jones, 32 974 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui grappille 0,7%, 13 063 points. 18h11, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
Thème à la mode, la fraude sociale, hein, évidemment.
Et oui, on est passé de la fraude fiscale à la fraude sociale.
Tout ça en quelques semaines. Charles Prats est avec nous. Bonsoir, Monsieur Prats.
Bonsoir.
Vice-président de l'Association professionnelle des magistrats, ancien magistrat de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude. Parce que Gabriel Attal a donc présenté aujourd'hui son nouveau plan contre la fraude sociale. Alors, la fraude, déjà, vous la chiffrez à combien? Parce que la Cour des comptes dit entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Olivier Marleix, pour LR, dit 30 milliards. Il semble s'inspirer à prendre vos chiffres. Vous dites combien, vous?
Alors, 6 à 8 milliards pour la Cour des comptes, c'est la fraude aux prestations sociales. Parce que vous savez que la fraude sociale se décompose en deux choses.
Cotisation aussi.
La fraude aux cotisations sociales et la fraude aux prestations sociales. Sur les cotisations sociales, les URSSAF les évaluent à peu près à 9 milliards. Vous avez un certain nombre d'organismes parapublics qui sont plutôt sur 17-18 milliards. Et nous, à Bercy, à l'époque, avec la Cour des comptes et la DLNF, on était entre 20 et 25 milliards. Et donc, tout le monde s'accorde à dire que la vérité est certainement peut-être un peu au milieu, donc plutôt vers 17-18 milliards, oui. Ce qui est énorme. Hein, 18 milliards de banques à gagner par an, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ouais. Et sur les prestations sociales, la Cour des comptes, là, dans son dernier rapport, il y a quelques jours, nous dit 6 à 8 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales. Déjà, c'est un progrès, parce qu'il y a une douzaine d'années, il nous disait que c'était 2 à 3 milliards. Alors, ça, la fraude n'a pas été multipliée par 4 en 10 ans. Hein. Mmh. C'est simplement que, petit à petit, les gens finissent par admettre qu'il y a effectivement une fraude massive. Donc, c'est pour ça que je pense que dans 10 ans, on sera à des chiffres beaucoup plus élevés. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis sur une hypothèse haute de 50 milliards d'euros, mais pour une raison toute simple.
En fraude sociale, hein.
Oui, en fraude aux prestations sociales. Tout simplement parce que vous avez 900 milliards d'euros de prestations sociales distribuées en France. C'est les coûts, c'est ce que ça nous coûte avec les frais de gestion inclus. Vous avez des taux de fraude naturels, hein, dans toutes les organisations privée, publique, 5, 6, 7%. C'est le taux de fraude global qu'on voit partout. Vous appliquez un taux de fraude de 6% à la masse des prestations sociales qu'on distribue, vous avez 50 milliards d'euros. Ça correspond aussi à la dépense moyenne qu'on appliquerait aux millions de personnes prises en charge, en plus que des gens qui existent. Vous savez, ça encore, c'est un chiffre de la Cour des comptes, 75 300 000 pris en charge pour 67 millions d'habitants ou 68 millions d'habitants. Quand on fait le calcul, on se dit qu'il y a un sujet. Et d'ailleurs, quand la Cour des comptes dit 8 milliards, elle dit bien que ce ne rentre pas en ligne de compte les 2 millions et demi de personnes qu'elle a identifiées comme bénéficiaires de la protection maladie universelle, ce qu'on appelait la CMU avant, sans y avoir droit, qui en bénéficient de manière irrégulière. Elle ne prend pas en compte non plus le problème des cartes vitales surnuméraires, puisqu'en réalité, les administrations ont refusé de lui donner le nombre de cartes vitales par année de naissance.
Mais alors, d'accord sur le constat, bon, 8 ou 50 milliards, évidemment, c'est pas le même sujet, mais c'est de toute façon de trop. Voilà. Donc, on sait que les deux trous dans la raquette, ce sont les moyens financiers et les moyens humains. Ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est 1000 postes supplémentaires pour les caisses de sécurité sociale pendant le quinquennat et un investissement de 1 milliard dans les systèmes d'information. Est-ce que c'est suffisant?
Alors, d'abord, les deux trous dans la raquette, ce n'est pas le personnel et ce n'est pas les moyens financiers.
Il y a
une question d'état d'esprit et puis après une question de priorité.
Enfin, une question de moyens aussi.
D'état d'esprit d'abord. Les moyens, ils y sont. Vous savez, les contrôleurs des CAF, par exemple, individuellement, ils ramènent autant d'argent qu'un contrôleur des impôts. Donc, qui sont aussi performants que les gens des impôts. Et effectivement, bah, si vous en mettez plus, bah, il va en ramener plus d'argent. Les gens des URSSAF, ils sont au taquet. Si vous voulez ramener plus d'argent dans, pour réprimer le travail noir, il va falloir plus de monde. Vous savez, pour attraper des fraudeurs, les ordinateurs, c'est bien, les logiciels, c'est bien, mais il faut quand même des enquêteurs.
Hein. Donc l'intelligence artificielle, parce qu'on nous parle beaucoup dans la...
Ah, on nous rebat les oreilles.
Non, mais bah, justement, on
nous fait... ChatGPT de la lutte contre la fraude.
Oui, non, attendez, ça date pas d'il y a 6 mois de ChatGPT. Ça fait des années qu'on nous dit que grâce au projet de l'intelligence artificielle, on va pouvoir de plus en plus...
Écoutez, la vérité est que 1000 postes en plus, c'est toujours bon à prendre. 1 milliard d'euros pour les systèmes d'information, c'est important parce qu'effectivement, il y a des problèmes dans les organismes de systèmes d'information. Et un exemple tout bête, vous savez que là, en matière de fraude, vous pouvez remonter à 5 ans. Les indus, vous les récupérez sur 5 années. C'est la période de prescription pour les fraudes. En fait, les systèmes d'information des organismes sont calibrés pour remonter à 2 ans simplement. Donc en fait, ils abandonnent à chaque fois, d'ailleurs la Cour des comptes leur tire les oreilles, ils abandonnent les poursuites sur 3 des 5 années parce qu'ils ont tout simplement pas les moyens de calculer combien la personne leur a volé sur les 5
dernières
années.
Donc là, c'est juste 1 milliard pour remettre à niveau, c'est juste ça.
En réalité, vous savez, bon, j'ai discuté avec Gabriel Attal, il m'avait demandé de venir le voir à son bureau il y a 2 semaines pour discuter de ce plan-là et avec 2 de ses conseillers. Et voilà, les gars ont dit, bah oui, mais notre problème, c'est que ils ont pas les outils, tout bêtement, pour aller chercher sur les 5 années.
Bon, l'intelligence artificielle, en 2 mots, vous y croyez pas?
C'est pas que j'y crois pas, c'est très bien les algorithmes, ça marche. Ouais. On va pouvoir faire des tas de choses avec, notamment en matière de contrôle des
professionnels. Et en quelques secondes, c'est un agent du fisc que mettrait une vie à réaliser, quoi. C'est ça qu'on nous vend.
Voilà, mais cela étant, à un moment donné, il faut aller chercher les bonhommes. Hein. C'est toujours pareil. Hein.
Mais alors, donc, on est bien d'accord que vous avez parlé à Gabriel Attal et ses équipes des outils et pas de l'état d'esprit.
Ah si, bien sûr que si.
Alors, le changement d'état d'esprit, c'est lequel?
Le problème du plan tel qu'il est présenté, moi, je le trouve très décevant. Ce que j'avais dit au ministre, je lui ai dit, écoutez, si votre plan est super, je serai le premier à venir dire partout, sur tous les plateaux télé, partout, que c'est un super plan. En revanche, c'est décevant, je dirais partout qu'il est décevant. Et il est très décevant. Il est très décevant, pourquoi? Parce que, par exemple, cette histoire de fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, qu'ils nous vendent. En fait, ils nous vendent une étude de faisabilité, globalement, pour la fin de l'année. On a cru voir, chez vos confrères de BFM, c'est eux qui l'ont sorti, qu'en fait, le ministère de l'Intérieur n'en veut pas, donc on sait déjà que ça va pas se faire, que ça va être très compliqué, et en réalité on nous vend, on lâche la proie pour l'ombre, on nous vend une chimère qui pourrait se faire à 15-20 ans, le temps de changer toutes les cartes, et dont on sait très bien qu'elle ne se fera pas puisque l'administration déjà n'en veut pas, mais en contrepartie, le ministre lâche tout de suite, et là par contre il abandonne la biométrie. Il l'a annoncé.
Alors justement, voilà. La biométrie, donc, ça c'est votre truc. Vous dites que c'est la solution.
Enfin, c'est mon truc. C'est le truc de 83% des Français, parce qu'on a fait des sondages, et 83% des Français veulent la biométrie pour lutter contre la fraude sociale.
Pour ceux qui savent ce que c'est, justement, expliquez-nous ce que c'est.
Alors, il faut pas confondre la carte vitale biométrique et l'utilisation de la biométrie pour sécuriser l'identité sociale. Vous avez des gens qui veulent une carte vitale biométrique avec les empreintes dessus. Dès que vous allez chez le pharmacien, etc., vous mettez vos empreintes. Moi, c'est pas ça que je préconise. Moi, ce que je préconise, et ça, effectivement, c'est un peu coûteux, ça prend du temps. Moi, ce que je préconise, c'est la sécurisation de l'identité sociale. Vous savez, votre numéro de sécurité sociale, par la biométrie. C'est-à-dire de vérifier et de réenrôler tout le monde, de réinscrire tout le monde, et de vérifier qu'à votre numéro de sécurité sociale ne correspond qu'une seule identité, la vôtre, et qu'à votre identité, votre personne, ne correspond pas plusieurs numéros. Voilà. Tout simplement, ça évite des fraudes. Et c'est comme ça, en faisant ce travail-là, qu'on passera d'une base dans laquelle il y a plus de 75 millions de personnes qui bénéficient de droits ouverts à la sécurité sociale à 67, 68, 69 millions avec les gens qui sont à l'étranger. Et donc, on nettoiera le système. Et ça, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'un plan de lutte contre la fraude sociale devrait faire.
Alors, pourquoi
en priorité.
Alors, pourquoi on ne le fait pas?
C'est une bonne question qu'il faut poser au ministre. Mais je crains.
On a les outils en France. On nous rebat les
compétences
de la France en matière de biométrie depuis des années.
On a des sociétés qui ont fait ça au Nigeria. On a enrôlé 300 millions de personnes. On a fait l'Inde, 1 milliard d'individus.
Alors, pourquoi c'est pas français en France?
C'est une bonne question. Mais je crains qu'on ne le fasse pas en France, parce qu'en réalité, si vous le faites et que vous sortez 5 millions de personnes du système, et ben tout le monde, tous les contribuables vont dire mais attendez, ça fait combien d'années qu'on est au courant qu'il y a ça? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Et qui vont commencer à calculer les économies. Et c'est là que vous arrivez à la limite du système, c'est que le roi est nu.
Alors, enfin, parlons quand même de ce qui va être mis en place. Il n'y aura plus de versements, notamment sur un compte européen à partir de...
Étranger, hors Europe.
Ah, oui, c'est ça, un compte non européen à partir de cet été. Ça devrait quand même permettre d'identifier beaucoup de fraudeurs.
Non, pas tellement. Vous savez, le fraudeur, il va faire quoi? Il va passer sur un compte nickel, il va prendre un compte en ligne, et puis on avait finalement pas tant que ça qui étaient sur des comptes hors Union européenne. Vous savez, c'est le fraudeur, vous n'avez pas identifié simplement avec ces problèmes-là. Là, vous allez régler des problèmes anecdotiques. C'est comme les personnes qui sont âgées, qui sont à l'étranger. Alors, Gabriel Attal a encore parlé d'Algérie, etc. Oui. Ça existe, hein, les retraités décédés, puis les familles qui continuent de percevoir. Je dis pas que ça n'existe pas, ça existe, on le sait. C'est documenté. Il y a pas de souci là-dessus. Sauf que ce n'est pas des enjeux en milliards d'euros. C'est-à-dire, c'est pas avec ça qu'on va résorber le déficit de la sécu.
Certainement pas. Donc, on est dans une séquence hautement politique, hautement symbolique. C'est ça que vous nous dites.
On est dans une séquence de communication politique. Et je crains que, comme la dernière chose qui est restée dans les mémoires des gens sur le plan de lutte contre la fraude fiscale, c'était les fraudeurs qui repeindraient les centres des impôts, vous savez. Là, ce qui risque de rester, c'est les 450 Sherlock Snapchat, qui vont être chargés de traquer la fraude sociale sur Snapchat. Bon. Et objectivement, est-ce que vous croyez vraiment que c'est sur Snapchat que tout se passe, quoi?
Bon. Conclusion, le grand soir n'est pas pour demain matin, comme disait l'autre. Merci beaucoup, Charles Prats. Merci beaucoup de passer nous voir, vice-président de l'Association professionnelle des magistrats et donc ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business. 18h20, on vient dans un instant.
Oui, on va continuer sur ce sujet dans le grand débat de Good Evening Business. On va tester justement l'optimisme ou pas de nos débatteurs.
Et puis, on va parler de cette grande première, cette Gigafactory inaugurée aujourd'hui dans le Pas-de-Calais. Est-ce qu'on touche les limites de la réindustrialisation? On posera la question. Puis le grand oral du MEDEF. Alors, on posera la question. Vous la posiez tout à l'heure.
Eh oui, Non, mais j'ai quand même un candidat préféré. Je vous le dirai peut-être tout à l'heure.
Eh bien, on posera la question à nos débatteurs aussi dans un instant. À tout de suite.
Good Evening Business, le débat.
Allez, 18h24, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov.
Rebonsoir.
Bonsoir Béatrice Mathieu, bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
Grand reporter écho à l'Express, Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Bonsoir Jean-Marc et Franck Dedieu. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci d'être avec nous, nous avons plein de beaux sujets encore ce soir. D'abord, ça a été la grosse info écho du jour, c'était la grande attraction. Les médias, tous ensemble, on en parlait, l'inauguration dans le Pas-de-Calais de la première usine de batteries électriques françaises sur le site adossé, co-entreprise formée quand même, s'il vous plaît, de Stellantis, Total Energy et Mercedes, Audrey.
En effet, un grand jour célébré comme il se doit avec Bruno Le Maire qui était sur place. On l'écoute tout de suite.
C'est un grand jour pour l'industrie française. Et c'est un grand jour pour l'industrie européenne. C'est la première fois que nous créons, depuis Airbus, une nouvelle filière industrielle en France et en Europe. La filière des batteries électriques, qui va représenter 10 000 emplois d'ici quelques années, ici sur le territoire des Hauts-de-France, avec un savoir-faire technologique, un savoir-faire industriel du meilleur standard mondial, et qui va nous permettre de gagner la bataille sur les véhicules électriques pour le 21e siècle.
Voilà, beaucoup d'émotions, la petite larme à l'œil même de Bruno Le Maire. Est-ce que ça peut être sale tout le temps ensuite, la réindustrialisation, la relocalisation? Est-ce que cet exemple est duplicable à l'infini? Peut-être pas non plus, quoi.
Pourquoi pas Alors, je pense que ce sujet sera peut-être le seul qui nous mettra tous les quatre d'accord ce soir, mais en tout cas, c'est quand même génial que la France se positionne sur le sujet pour deux raisons. C'est que, un, les batteries électriques, elles peuvent représenter jusqu'à 40% du prix d'un véhicule électrique in fine, et puis à horizon 2025, l'Europe, elle va représenter 20% du marché mondial des batteries. Alors, bien sûr que la Chine a pris 50 longueurs d'avance. En même temps, quand on regarde l'argent qu'elle a levé sur cette filière l'année dernière, c'est 10 milliards. Donc nous, avec nos 7 milliards, on n'est pas si ridicule que ça. Et puis enfin, je terminerai par rappeler que c'est un vrai sujet de souveraineté, qu'il ne faut pas être naïf, parce qu'en réalité, le lithium qui fait ces batteries, il est quasiment inexistant en Europe, à part un peu au Portugal. Le lithium, il vient d'où? Il vient d'Argentine, il vient d'Australie, il vient de Chine. Et le raffinage des terres rares, il est processé où? Par les Chinois, en Chine. Donc ça veut dire que si on entre en conflit avec certains de ces pays, ou s'il y a des tensions qui commencent à apparaître sur les marchés mondiaux, nos gigafactories, elles tourneront à vide. Donc, c'est bien de les construire, mais il faudrait aussi investir en Chine et en Inde dans les minerais.
Vous le saluez, ce sursaut, Béatrice, comment est-ce que vous regardez ça?
Oui, forcément, il faut...
Plus tard que jamais, vous dites?
Oui, alors c'est vrai qu'on a pris un retard considérable, à la fois effectivement sur les batteries, mais il faut regarder, vous avez raison de parler de l'aval et de l'amont et de l'aval. Effectivement, l'approvisionnement en métaux rares, en lithium, pose question. Alors, vous dites investir en Chine, je vois pas comment aujourd'hui on peut investir en Chine, ça semble quand même assez compromis. Donc ça fait peser un grand risque, en fait, sur le développement et l'ampleur du développement de la filière en Europe. Et puis après, il y a l'aval, c'est-à-dire via les constructeurs. Et là, il faut bien avouer que les constructeurs automobiles chinois ont énormément d'avance, en fait, sur les constructeurs européens. Et il y a une entreprise dont tout le monde va parler bientôt dans quelques mois, et peut-être, on reparlera peut-être de Gigafactory en France, c'est BYD. Ouais. BYD qui est quand même le premier constructeur qui est juste derrière Tesla sur le véhicule électrique, sur l'hybride rechargeable, c'est les premiers au monde. Ils ont un projet de Gigafactory en Europe où on voit bien que la France est en train de faire la danse du ventre avec l'Allemagne et l'Espagne aussi pour essayer d'attirer cette Gigafactory, et que BYD de toute façon a annoncé son souhait de se développer en Europe avec des véhicules qui sont très bien, c'est pas des pots de yaourt affreux, etc. Il faut aller en Asie pour voir ces véhicules, ils sont très 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 bien faits, ils coûtent des petits modèles entre 10 et 15 000 euros.
Ben c'est ça,
donc ils vont arriver avec une concurrence qui va être terrible.
Ils ont délogé Volkswagen sur la première marche des constructeurs en Chine, d'ores et déjà BYD. Non, ce sursaut, vous dites quoi ? Mieux vaut tard que jamais.
Non, mais j'applaudis effectivement des deux mains. Je trouve que c'est une belle opération. Surtout que c'est le début d'une opération qui va avoir des prolongements, puisque ça n'est pas une usine dont on parle là. C'est de 3 ou 4 usines qui vont s'installer. Dans la région des Hauts-de-France.
20 000 emplois, la clé, après, d'ici 2030.
Au total, ça devrait faire 20 000 emplois.
Oui, puis il n'y a pas que celle-là. Il faut voir aussi ce que fait Vercors à côté.
Il faudra aussi voir ce qui se passe en Bretagne avec les projets Bolloré, parce que ça va faire un moment qu'il
pas la même technologie.
C'est le même usage.
Quelques usines qui tournent aujourd'hui, Franck de Dieu.
Il faut les remplir aussi, les batteries. C'est ça, il faut faire de l'électricité.
C'est ça. Franck.
Alors, moi, évidemment, j'applaudis. Mais j'ai envie de dire, il y a tellement eu de pertes d'emplois industriels. Il y a eu 1 million d'emplois industriels perdus entre 2001 et 2017. Ça fait chaque année une ville comme Troyes qu'on raye pendant 16 ans. Donc effectivement, on a des emplois à la clé. Gigafactory, vous avez dit usine, ça c'est bien. Gigafactory, Billancourt. Renault Biencourt, c'était 30 000 employés.
Bon, écoutez,
30 000 employés,
non,
là,
mais giga par rapport
2000.
Aux investissements.
Et Factory, alors on dit Factory, parce que l'usine, ça sent le copeau de bois, le bleu de chauffe.
Mais c'est plus l'usine non plus.
Ça sent le... Non, ben, l'usine, c'est l'usine. Je sais pas. Alors, le mot giga Factory, moi, je trouve ça un petit peu déplaisant. Non, mais pas déplaisant, mais bon, voilà, c'est à la fois un anglicisme, et puis le mot giga ne me semble pas approprié par rapport à ce que
c'était. Giga sur les montants d'investissement.
Oui, alors justement, parlons des montants d'investissement, c'est 1,3 milliard d'aides publiques, ça fait beaucoup. Et là, on est en train d'apercevoir, si vous voulez, je ne suis pas forcément celui qui va casser l'ambiance, mais on est en train de voir une sorte de dichotomie de l'emploi aujourd'hui en France. C'est-à-dire que vous avez des emplois qualifiés qui ont besoin soit d'aide publique, 1,3 milliard, soit d'investissements étrangers, et puis parallèlement des investissements de l'emploi plutôt peu qualifié, qui ne fait pas gagner de productivité. Attends. Et donc, effectivement, cette dichotomie-là, moi, je trouve qu'elle est assez inquiétante pour l'avenir de l'industrie et de l'économie.
On rabat-joie,
Pas rabat-joie, non. Voilà. On marque une petite pause, 18h31. On revient dans 2 minutes et on reprend le débat jusqu'à 19h sur BFM.
À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
Allez, 18h31, on repart dans 2 minutes. D'abord, c'est Faïza Younzi qui nous redonne les grands titres de l'actualité ce soir. Bonsoir Faïza.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Nvidia passe un cap symbolique. Le fabricant américain de microprocesseurs a dépassé les 1 000 milliards de dollars de valorisation à Wall Street, un seuil franchi dès les premiers échanges aujourd'hui. Le titre s'était déjà envolé de plus de 25% la semaine dernière. Le groupe est porté par l'essor de l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons jeudi prochain avec le vice-président Europe du groupe qui sera l'invité de Tech & Co. Une intelligence artificielle qui inquiète. Sam Altman, créateur de ChatGPT et d'autres chefs d'entreprise, alerte sur les menaces d'extinction de l'humanité. Lutter contre les risques liés à l'intelligence artificielle devrait être une priorité au même titre que les guerres nucléaires ou les pandémies. C'est ce qu'ils écrivent ensemble dans une déclaration qui a été publiée aujourd'hui. Également dans l'actualité, cette inauguration en grande pompe de la première gigafactory française à Billy-Berclos dans le Pas-de-Calais. L'usine de batterie d'ACC, co-entreprise de Stellantis, Total Energy et Mercedes, doit permettre d'équiper 500 000 voitures par an dès 2030. Et surtout, elle marque un pas dans la mise en place de cette filière en Europe. Dans le secteur immobilier, la baisse des prix en France dans l'ancien au premier trimestre, ils ont reculé de 0,2% par rapport au trimestre précédent, selon l'indice notaire INSEE qui fait référence. Cette baisse est inédite depuis 2015. La crise dans le secteur se confirme. Le volume de transactions a également diminué à cause des difficultés des ménages à accéder au crédit. Keolis rafle l'exploitation de deux futures lignes de métro du Grand Paris. La filiale de SNCF brise le monopole de la RATP qui n'a pas été retenue à l'issue de l'appel d'offres. Keolis va gérer les lignes de métro automatiques 16 et 17 à partir de 2026. Un contrat d'une durée de 7 ans. Également dans l'actualité, ce chiffre, 340 millions d'euros. C'est le montant que le gouvernement va mettre sur la table pour investir, pour développer les métiers d'art. Objectif, améliorer les formations, mieux développer les professions, notamment auprès des jeunes. Ce plan annoncé aujourd'hui doit permettre également de structurer cette filière qui rassemble pas moins de 300 métiers différents. Et on termine avec le plus gros fonds souverain au monde qui tape du poing sur la table contre certaines entreprises japonaises au sujet de la parité. Le fonds norvégien va désormais voter systématiquement contre les nominations qui seront exclusivement masculines au conseil d'administration. On jette un œil à la clôture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 clôture en net baisse ce soir, moins 1,3% à 7209 points.
Merci beaucoup Faiza. 18h34, c'est reparti jusqu'à 19h pour le grand débat.
Good evening business, le débat.
Avec Audrey Tcherkov, avec nous, Béatrice Mathieu, Jean-Marc Sylvestre et Franck Dedieu, qui a un petit problème avec la notion de gigafactory. C'est ça le propos juste avant la pause. S'il vous plaît pas ce terme de gigafactory.
Non, alors
Audrey pas d'accord.
Dans son acception, deux termes, à la fois giga parce que ça fait pas beaucoup d'emplois, et puis le terme de factory, on peut parler d'usine, comme mon voisin de droite. C'est pas sale de parler d'usine, voilà.
Oui, d'accord. Non, mais je trouve que vous avez un discours de vieux schnock et ça ne vous ressemble pas. Vous regardez dans le rétroviseur.
Faut que je vous réponde en anglais, c'est ça ?
Non, mais vous avez bien fait de le dire, parce que si je l'avais dit moi, j'aurais reçu une.
Et ben voilà. Non, mais Franck, ce que vous oubliez de dire, c'est que en fait, ces batteries, elles offrent quelque chose qui n'existait pas jusqu'alors. Elles offrent un avantage sur la sécurité énorme. Pourquoi ? Parce qu'elles sont non inflammables. Parce qu'au lieu du liquide habituel qu'on met dans les batteries, on mettra de la céramique en poudre. Donc ça, c'est un vrai avantage, puisque vous ne vous arrêtez pas de dire, oui, mais en gros, c'était mieux avant. Ben non. Alors là, pour le coup, c'est quand même mieux maintenant. Par ailleurs, ces batteries, elles vont permettre deux fois plus d'autonomie et elles vont utiliser beaucoup moins de métaux rares et elles vont être un peu moins chères. Et tout ça, ça répond aux freins à l'achat, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le sujet, c'est que les voitures électriques, elles sont trop chères et qu'elles n'apportent pas assez d'autonomie. Donc, a priori, on devrait voir une explosion des voitures électriques.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire.
Ça me fait plaisir.
Le gigafactory, c'était pas.
Non, mais pour une fois, je vais défendre. Alors, je suis d'accord en général avec Franck sur l'anglicisme et puis la novlangue, etc. On en a un petit peu rabat. Mais alors, sur ce point-là de gigafactory, je suis pas complètement contre d'utiliser ce terme-là. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, effectivement, on a une vision et auprès d'une grande partie de la jeunesse, toujours c'est l'industrie, c'est ce truc avec le bleu, ça sent ce que vous disiez, les copeaux de bois, etc. Du fait, l'industrie, c'est plus du tout ça du tout. Et on a un gros travail, un énorme travail même de persuasion en fait des jeunes de prendre ces filières industrielles, d'aller dans des métiers de BTS, de technicien supérieur. Ouais. Où on manque énormément. Hein. Et si, par une espèce d'opération de communication,
pour
avec des
sexy,
paillettes,
quoi. Pour
etc.,
ça sexy,
voilà.
Ça,
voilà. Eh bien, on rend ça sexy, eh bien, pourquoi
mais,
pas.
Mais bien entendu, mais pourquoi c'est peut-être pas avec le terme anglais. Mais enfin, bon, je crois que ce n'est pas l'essentiel. Avec...
Non, pardon, mais je veux dire, je défendais ça.
D'avoir
quoi.
Été, voilà.
Ça vous va l'anglicisme de Gigafactory ?
Oui, très bien. Moi, ce qui compte, c'est le produit, d'où il vient, avec ce qu'on va en faire et ce qui va devenir. On est dans une stratégie globale de réindustrialisation, non pas de la France, mais de stratégie globale de la modification de la mobilité vers des énergies qui sont plus propres. Personne ne peut regretter ça. Il va falloir bien sûr ensuite approvisionner les batteries parce qu'on est quand même très en retard sur les stations de recharge et sur la mécanique voiture. Mais il y a aussi autre chose, et je comprends que Franck de Dieu, qui est quand même resté quand même très souverainiste dans l'âme, n'en parle pas, c'est que c'est un projet européen et que ça fait depuis très longtemps qu'on n'avait pas eu
parce que Renault n'a pas voulu y aller. Si Renault avait voulu y aller, peut-être qu'il n'y aurait pas, eu Mercedes. Mais le fait que Mercedes arrive aussi a fait accélérer énormément le
projet. Mais la compétition a du bon, ça c'est sûr.
On est dans Airbus, la comparaison
les Airbus
que fait
de l'énergie,
Bruno Le Maire.
Les Airbus de la batterie.
Oui, mais ça énerve tout le monde, même les acteurs.
Même les Européens, ça les énerve.
Mais non, ça ne m'énerve pas. Écoutez, c'est un beau succès quand même. Arrêtez.
C'est vrai qu'on met un peu Airbus à toutes les sauces.
Il n'était pas énervé.
Airbus n'a pas toujours été une grande réussite par ailleurs. C'est ça qu'il faut se souvenir des premières années. Bref, voilà pour cette belle journée, 18h38. Le deuxième grand sujet ce soir, c'est le MEDEF, parce qu'il y avait ce grand oral ce matin des deux finalistes à l'élection du président du MEDEF, je vous rappelle, le débat 26 juin sur BFM Business, 18h-20h, Dominique Carlac contre Patrick Martin, ça sera en direct sur BFM Business. J'accueille Caroline Morisseau pour en parler à 18h38, parce que Caroline, bonsoir Caroline, vous avez assisté vous ce matin à ce grand oral à Paris. Ils ont eu 45 minutes chacun pour exposer leur programme. Comment ça s'est passé, Caroline, ce matin?
Alors, après tirage au sort, d'abord, c'est Dominique Carlac qui s'est exprimée la première, et elle a tenté, en quelque sorte, de ringardiser Patrick Martin, son grand rival.
Parce qu'il n'était pas très difficile.
Non.
Parti pris.
Pardon, allez-y.
Elle n'a pas eu de difficulté à le faire, en tout cas. Voilà. Elle s'est posée en candidate du changement, de la modernité, face à un MEDEF qu'elle dénonce pour son conservatisme, à son rival, qui a fait de la croissance le maître mot de son programme. Elle rétorque que la croissance, bien sûr, c'est une évidence, c'est mille fois une évidence. Mmh. Elle aussi, évidemment, veut s'attaquer à la croissance. Même chose en ce qui concerne les baisses de charges, la simplification administrative. Mais elle a aussi insisté sur d'autres sujets, comme par exemple l'organisation du travail. Pour elle, le MEDEF ne peut pas faire l'impasse de ces sujets. Derrière, Patrick Martin s'est exprimé à son tour. Il a vanté, lui, le bilan du MEDEF, dont il a été numéro 2 sur les 5 dernières années. La baisse des impôts de production, la mise en place des PGE, les prêts garantis par l'État pendant la crise Covid, ou encore les aides à l'apprentissage qu'il a, dit-il, arrachées à la dernière minute via des négociations avec Muriel Pénicaud avant qu'elle quitte le ministère du Travail. Le MEDEF de combat, dit-il, ça ne veut rien dire. L'important, c'est d'être pragmatique, c'est l'efficacité. Et puis, il a à nouveau insisté sur la croissance. Cela peut paraître évident, a-t-il dit, mais le sujet ne fait plus l'unanimité. Et pourtant, c'est la clé, dit-il, pour ensuite dégager des marges de manœuvre et puis investir dans tous les sujets, les enjeux climatiques, l'emploi, le pouvoir d'achat.
Voilà pour ce grand oral qui avait lieu ce matin. On rappelle le vote le 6 juillet prochain.
Exactement.
On verra ça évidemment sur BFM Business cette fin de campagne. Oui, merci beaucoup Caroline. Elle vous botte cette campagne?
Non.
Au-delà du fait, Audrey, que vous avez une favorite visiblement, si je ne me trompe pas.
Oui.
C'est pas un défi.
Alors en effet, c'est un parti pris. Non, mais alors c'est vrai qu'il y a un suspense. On pensait il y a quelques semaines que les dés étaient jetés. Pardon. Finalement, je suis pas si certaine qu'ils soient jetés. Maintenant, c'est un vrai suspense qui n'intéresse personne.
Regardez quand même les fédérations professionnelles qui sont derrière chacun des candidats, il n'y a pas beaucoup de suspense quand même, non?
Mais, les grosses fédérations soutiennent Patrick depuis le départ.
Quelles sont les fédérations, Caroline?
La fédération de la métallurgie, qui est quand même la grosse fédé, le plus gros poids lourd en termes d'électeurs, soutient Patrick Martin. Olivier Salleron, qui est le président de la fédération du bâtiment.
Oui, mais Caroline, vous savez bien qu'à la présidence du MEDEF, on a toujours des surprises.
Oui, et puis c'est possible que les membres de ces fédérations, les électeurs de ces fédérations ne votent pas comme un seul homme derrière Patrick.
Ce que je voulais dire,
il y a cinq ans, Sobo était. Je me rappelle. Exactement. Sobo était persuadé de gagner.
Tout à fait.
Persuadé. On avait ce discours-là, effectivement, où on disait on avait regardé les fédérations s'est pliées, etc. Et le jour même, il a reçu un énorme coup de bambou parce que à l'intérieur des fédérations, il y en a qui n'ont pas respecté en fait
la tant mieux, tant mieux. Et il faut effectivement,
on pensait effectivement que c'était joué, aller voir
dans les programmes. Voilà. Ça fait la deuxième fois que je les entends. Et je trouve que les candidats sont en train de passer à côté d'un phénomène important pour le syndicalisme en France, c'est qu'un syndicat, c'est un lobbyiste, représente et ça défend les intérêts de leurs adhérents, que ce soit un syndicat patronal ou un syndicat de salariés, mais aussi en France, ça participe à la gestion du régime paritaire. Et notre régime paritaire, ça occupe la moitié de l'économie globale publique, sociale publique. C'est l'équivalent du budget de la France. Et là, il va falloir quand même que, si on veut préserver ce paritarisme, j'ai compris que la France entière voulait préserver le paritarisme, des retraites, de l'assurance maladie, de la sécurité sociale, et puis de la vie, enfin tout ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je n'ai pas encore entendu dans chacun des programmes une prise de responsabilité. Aucun des candidats n'a d'ailleurs remis l'État à sa place quand il s'est agi de mesurer le périmètre de l'État. C'est quoi le périmètre de l'État ? Hein ? Ça doit s'occuper de tout et de n'importe quoi, ou ça ne s'occupe que des fonctions régaliennes ? Parce que le reste, c'est quand même le rôle de l'entreprise. Et c'est à l'entreprise
de faire
ça.
Moi, je vous relance la question, c'est quoi le patronat de demain ? Est-ce que c'est pas un patronat qui nous projette un peu plus dans le monde du travail de demain,
finalement ? Sûrement, il y a ça.
Pour moi, je pense qu'il y a une sorte de mise en scène d'un jeu de rôle avec d'un côté le côté sociétal et empathique à l'égard de l'idée du travail. Il y a 25 000 rapports sur quand même le travail. C'est, quand il s'agit de défendre la baisse des charges, la baisse des impôts de production, là, ils sont tous d'accord. Donc d'un côté, on a une forme d'empathie sociétale qui est plutôt sympathique, mais bon, voilà. Et puis, d'un autre côté, le colbertiste, là, un peu, voilà, industrialiste.
Les arabiers pour
voilà.
Les
et tout cela est un petit peu manichéen, alors qu'en fait, ils pensent à peu près tous la même chose.
Il n'y a pas d'idéologie majeure.
On a vu dans les réunions paritaires, moi, ce que j'ai trouvé scandaleux, et moi, je suis heurté par tout ça, c'est que quand, dans un régime social, on n'arrive pas à équilibrer son budget, sur les retraites, on l'a vu, sur le chômage, on l'a vu, sur les allocations familiales et sur la santé, on le voit. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met avec les syndicats de salariés, les syndicats de patrons, on va ensemble, on va du côté de l'État et on dit maintenant, c'est vous qui faites le chèque. Et nous, non. Le paritarisme, c'est à eux de gérer.
Parce que c'est un rôle aussi politique.
Ils ont été clairs là-dessus ce matin. Franchement, ils ont été très clairs là-dessus ce matin. Et Dominique Carlac a dit qu'elle serait très offensive, notamment pour défendre la gouvernance.
Plus offensive
Donc, on y vient. Mais ne lâcherait rien. Ils ont dénoncé effectivement l'ingérence, les deux candidats d'ailleurs, l'ingérence de l'État sur un certain nombre de dossiers. Ils veulent défendre le paritarisme, ils veulent défendre le dialogue social, ils veulent prendre toute leur place, ils veulent plus laisser l'État en permanence.
La question de fond, en fait, à quoi sert encore le MEDEF ?
À ça, à gérer le social.
La vraie question, c'est ça.
À gérer le système.
Vous avez la réponse à ça, Béatrice, ou pas ?
Je pense que la situation, je ne vais pas les plaindre, mais je veux dire, la situation du MEDEF est quand même très différente quand vous avez un président de la République qui anticipe toutes leurs demandes, est très pro-business et pro-offre, et qui en même temps considère que les partenaires sociaux, ils s'en foutent et qu'il n'y en a pas besoin, et que voilà. C'est très différent d'un MEDEF avec un François Hollande qui n'avait pas encore fait le virage de la politique de l'offre. Donc évidemment, ça a été pour eux plus difficile d'exister. Moi, ce que je trouve assez curieux, c'est que pendant le débat sur les retraites, où quand même il y avait un enjeu majeur d'être force de proposition, notamment sur un emploi crucial qui est l'emploi des seniors, on les a jamais entendu. Ça a été quand même un silence radio. Alors eux,
Il y avait des divergences en interne sur la façon d'apprendre.
Ils ont fait profil bas parce que le climat social était extrêmement compliqué et qu'ils avaient obtenu à peu près tout ce qu'ils voulaient. Mais ils vont revenir à la charge sur l'emploi des seniors là dans le débat. Mais
moi, je sais que lors de la précédente élection, il y avait quand même un débat qui s'est en plus activé après la crise sanitaire, c'était celui du patriotisme. Quand même, c'était de se dire, les patrons, il faut qu'ils s'impliquent davantage, il faut qu'ils produisent en France, il faut créer aussi des conditions économiques et fiscales pour que ce soit le cas.
C'est ce qu'ils ont fait.
Il y avait un discours autour de ça. Là, franchement, d'avoir le jeu de rôle du colbertiste contre
caricatural.
Un petit peu quand même. D'ailleurs, c'est ce que vous mettez, je crois, dans votre.
Mec, ils ont mis le
personnel.
Avant.
C'est sur notre chaîne.
Pas de parti pris sur le.
Allez, Audrey, pour conclure là-dessus.
Bah non, bah écoutez, moi je veux juste rappeler que Dominique Carnac, c'est un, la seule femme et par ailleurs la plus jeune sur la ligne de départ. C'est quand même du 109. Elle a un profil intéressant. C'est une ancienne athlète. Elle est membre du CESU. Et puis, elle a des idées nouvelles. C'est la seule à dire qu'il faudrait mettre en œuvre une interpatronale à l'image de l'intersyndicale. Voilà, donc moi je pense que c'est la meilleure candidate.
Voilà, la campagne continue, et puis je vous le rappelle, ça on va vous le bastonner tous les jours. Hein. Ce débat qui aura lieu, c'est le 26 juin prochain, vous notez ça sur vos tablettes. Hein. Dominique Carnac versus Patrick Martin, lundi 26 juin, 18h-20h, oui, en direct sur BFM Business. On attend ça avec grande impatience. 18h47, on remercie Caroline Morisseau. Merci Caroline d'être passée nous voir. On fait une petite pause, on revient dans deux minutes. La fraude sociale, ça va nous apaiser. Tiens, nouveau plan de Gabriel Attal pour aller chercher ses 6-8 milliards d'euros de manque à gagner tous les ans versus Cour des comptes.
Charles Pratt nous parlait de 50 milliards.
C'est pas vraiment dans le même ordre de grandeur. Absolument.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h50, dernière partie du débat avec Audrey Tcherkov, avec Béatrice Mathieu, avec Jean-Marc Sylvestre et Franck Dedieu. Donc, le gouvernement qui a présenté ce matin un nouveau plan pour lutter contre la fraude sociale. La Cour des comptes estime qu'elle se chiffre tous les ans entre 6 et 8 milliards d'euros de manque à gagner. Oui, Charles Prats nous disait tout à l'heure un peu plus. Il disait aux alentours de 30 à 50 milliards pour le coup.
Ah oui, alors tout un lot de mesures, en effet, annoncées par Gabriel Attal aujourd'hui. Et il assure ne vouloir viser personne. On l'écoute tout de suite.
Bénéficiaires qui peuvent eux-mêmes être victimes. Je vous donne un exemple. L'an dernier, on a démantelé un réseau de faux RIB lituaniens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez des bénéficiaires du minimum vieillesse, des personnes âgées qui avaient droit au minimum vieillesse, qui ont vu leur compte piraté sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le RIB a été remplacé par un RIB d'un réseau mafieux qui captait leur allocation sociale. Donc là aussi, on prend des mesures pour lutter contre ce phénomène. Donc la fraude, y compris sur des allocations, ça peut aussi être des réseaux mafieux organisés, parfois venant de l'étranger, qui s'en prennent à des bénéficiaires français qui ont tout à fait le droit de recevoir des allocations.
Voilà, Gabriel Attal. Bon, 6 milliards, 8 milliards, 30, 50, on va pas se lancer dans une bataille de chiffres parce qu'on y passerait la nuit. Ouais. Mais est-ce qu'on se donne les moyens avec ces mesures, effectivement, d'aller récupérer une partie, en tout cas, de ce manque à gagner?
Voilà. En tout cas, les séquences, elles sont intéressantes. Parce que d'abord, on a lancé la chasse à la fraude fiscale pour plaire à la gauche. Là, on lance la chasse à la fraude sociale pour plaire à la droite. On peut lire du Laurent Wauquiez dans le texte de Gabriel Attal. Hein. Alors maintenant, en effet, on peut pas nier que ça coûte des milliards. Donc, c'est une très bonne chose, en effet, ce qui a été annoncé, avec des choses assez concrètes, hein, plus de versements sur un compte bancaire non européen à partir de cet été. On recrute aussi beaucoup sur l'URSSAF pour déployer les cybercontrôles, fin des arrêts maladie en ligne, fusion carte d'identité et carte vitale. Bon, voilà, maintenant, la seule question que je me pose, c'est est-ce que ça ne va pas coûter plus cher à l'État que ça ne va lui rapporter?
C'est un vieux débat, hein, ça, la fraude sociale.
C'est un débat totalement actuel. On aurait dû l'avoir dans le titre précédent. Si les partenaires sociaux ne sont pas capables de prendre en main la gestion de toutes les organisations sociales, ils ne servent à rien. Parce que c'est à eux de faire tout ça. C'est à eux de contrôler la gestion. C'est à eux de mettre en place les principes de management qu'il y avait au départ, quand on a créé ce modèle social. Ça nous remonte à très loin. On n'était pas nés, hein, mais... Non.
mais on ne dira pas
le modèle social, ouais. C'est un modèle paritaire qui devrait d'ailleurs être fondé sur le système assurantiel avec tout ce qui comporte. Moi, je trouve que le meilleur système pour gérer le social, c'est l'assurance automobile. Elle est obligatoire avec des bonus et des malus. Quand vous vous comportez bien, vous avez un bonus, et quand vous vous comportez mal, vous avez un malus. Et Dieu sait si on se comporte mal, notamment dans les problèmes de santé. Je suis très sensible à ça parce que j'ai travaillé là-dessus. Il y a un défaut de la protection.
Oui, mais encore faut-il savoir qui se comporte mal.
C'est différent de la fraude.
Ah oui.
C'est différent de la fraude, évidemment, de la fraude volontaire et de la fraude
Franck de Dieu.
Moi, je conteste un peu l'analyse d'Audrey.
Allez-y.
Je vais penser un peu contre moi-même sur la fraude sociale qui serait pour faire plaisir à la droite et la fraude fiscale pour faire plaisir à la gauche. Parce qu'il y a toujours l'idée que finalement. Quelque part, il y a des fraudes qui sont commises par les riches. Voilà. Celles-là, elles sont vraiment. Et puis, il y a les fraudes qui sont commises par les pauvres. Et donc, à ce titre-là.
Non, mais vous avez entendu Gabriel Attal qui dit moi, je vise personne en particulier.
Donc, effectivement, je pense que toute fraude, qu'elle soit commise par qui que ce soit, elle est condamnable. Et qu'on soit de droite ou de gauche. Je pense que, il y a quand même au-dessus de ça, la question de la légalité et de la République. Donc, on respecte les lois. Qu'on soit, quelles que soient ses orientations politiques.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Maintenant, il y a une stratégie politique.
Il y a une arrière-pensée politique.
Non, mais oui, mais c'est un piège. C'est un piège pour des raisons.
Ils font leur. Ils sont politiques.
Je termine.
Juste.
Franck.
C'est un piège pour des raisons de principe, mais c'est aussi un piège pour des raisons techniques. Pourquoi ? Parce que la fraude sociale, à vrai dire, on a regardé, nous, à Marianne, elle est beaucoup le fait de gens qui ont plutôt les moyens. Oui. Regardez, 70% des fraudes aux prestations de santé sont le fait des professionnels de santé. Alors, oui. Ils ne sont pas tous riches, mais en fait, ce ne sont pas ceux qui reçoivent les prestations sociales. Moins de la moitié des 1,6 milliard de fraudes sociales en 2002 sont le fait des bénéficiaires des prestations sociales. Moins de la moitié. Donc, ça veut quand même dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège, y compris lorsque... Surtout lorsqu'on se dit de gauche, de se dire « Ah mais non, mais alors la fraude sociale, il ne faut pas être trop sévère avec la fraude sociale parce qu'on stigmatise les pauvres. » Mais c'est pas vrai.
Non, mais attendez, Franck, je n'ai pas dit ça, je l'ai encore moins pensé. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, le gouvernement, justement, ne tape pas sur les pauvres qui sont au RSA,
voilà,
ni sur ceux qui touchent les allocations. Et d'ailleurs, l'exécutif l'a rappelé, les trois quarts du montant, en effet, de la fraude de la Sécu, c'est dû aux professionnels de santé qui ne sont pas allocataires du RSA et aussi, bien sûr, les gens qui touchent les allocations à l'étranger.
Et bien souvent, les bénéficiaires, comme le rappelle Gabriel Attal.
Si vous voyez les candidats au MEDEF, que font-ils pour relancer la médecine du travail ?
Béatrice.
Elle a failli, elle a complètement disparu.
Non, mais on peut évidemment que se réjouir de se dire, bah tiens, oui, on va faire un plan contre la fraude. Hein, qui va dire, bah non, moi, je suis pour la fraude. Donc,
sauf qu'on peut aller chercher grand-chose.
Alors après, il faut distinguer, je pense que quand on... Dans la comparaison des montants de fraude fiscale et fraude sociale, genre la fraude fiscale est bien plus importante en fait, et donc le potentiel de recettes fiscales est sans commune mesure en fait avec ce qu'on fait sur la fraude sociale. Donc faut quand même, s'il y a une priorité, elle est quand même à donner sur la fraude fiscale. Et
il y a même un rendement en termes d'emploi.
Voilà,
votre agent des impôts, il se rapporte plus s'il est concentré sur la fraude fiscale. Pardon.
Non, mais il y a la mise en évidence d'un certain nombre de faiblesses administratives qui sont terribles. Ce matin, Attal, quand dit on va coupler la carte vitale avec la carte
d'identité. Mais ça, c'est pas possible.
Mais ça, c'est pas possible.
De toute façon, le ministère de l'Intérieur a dit qu'il ne voulait pas.
Mais il n'était même pas au courant.
Donc, je dirais,
c'est
invraisemblable.
Donc là, il y a des déclarations un peu. Voilà.
Bon, enfin, on sent qu'on. C'est une séquence hautement politique.
Ça existe dans d'autres pays.
Comme vous le disiez, c'est une séquence hautement politique et on voit qu'on est en train un petit peu de racler les fonds parce que les agences de notation nous regardent dans la tendance à un cours.
Mais peut-être en fait qu'il n'y aura pas de baisse de la notation.
Ah ben, on l'espère.
On l'espère.
C'est possible.
Tout le monde a considéré que ça aura.
Parce que je pense que c'est très possible que ça n'aura aucun impact.
Alors, je lance les paris. Qu'est-ce que vous dites,
c'est que cette agence, comme Moody's d'ailleurs, parce que Moody's a déjà noté, ils n'ont pas dégradé la fraude. Cette agence, comme Moody's, va prendre en compte la situation purement économique, financière et budgétaire.
Donc, est-ce que vous dites qu'ils vont dégrader la note ou pas, Jean-Marc ?
Elle ne va pas prendre en compte la situation politique et la situation sociale. Je pense qu'ils ne vont pas dégrader.
Franck ?
Aussi. Moi, en fait, je vais vous dire.
Allez, il faut prendre une position.
D'accord. Je pense qu'ils vont pas dégrader, non.
Mais moi, je pense qu'ils ne vont pas dégrader.
Et ben moi,
de toute façon,
plus.
La note, on s'en fout.
Voilà un sujet qui nous aura mis d'accord.
Et ben moi, je pense qu'ils vont dégrader. Déjà, la perspective est négative. Voilà. Alors, on verra ça vendredi à pas d'heure.
Les paris sont lancés.
Très très fin. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Qu'est-ce qu'on lit dans l'Express cette semaine ?
Une formidable enquête sur le nucléaire français et pourquoi on en est arrivé là.
Bien. Franck de Dieu.
Nous, on a un titre choc qui s'appelle le cancer Airbnb. On démontre, chiffre à l'appui, dans 50 villes, quels sont les effets du Airbnb sur l'augmentation des prix, sur l'augmentation des loyers.
Et voilà.
50 villes passées au crible, en particulier le long du littoral et dans les régions montagneuses. Et je vous conseille vraiment cette lecture.
Bon.
C'est, la démonstration est lumineuse.
Le message est passé.
Jean-Marc Sylvestre, Atlantico, qui est sur quoi en ce moment ?
Sur l'agence de notation.
Les agences de notation,
voilà.
Le sujet d'actualité.
C'est
demain matin.
Merci à tous les trois d'être venus. 18h58, on revient dans deux minutes, nous.
Oui, absolument. Ouais. On se retrouve avec une interview passionnante.
Ouais. Et puis on va retourner du côté du Pas-de-Calais, hein, là où a été annoncée la naissance de cette première gigafactory à la française, notamment tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.